Enfin, toutes celles qui traitent de sujets virils, la pièce Laodami, par exemple, qui s'intéresse au problème de la souveraineté féminine, n'a étrangement jamais été attribuée à un homme. Ensuite, ils sont tous passés en mode impro. De très chers amis de Bernard de Fontenelle, Catherine Bernard est carrément devenue sa cousine. Au XIXe siècle, dans un dictionnaire, on trouve « les liens d'amitié plus encore que ceux du sang lui attachaient Fontenelle, et il contribua par ses conseils au succès de sa fortune littéraire. Mais l'intérêt qu'il prenait à ses ouvrages fit présumer qu'il y avait beaucoup de parts. » Longtemps, la fiche Wikipédia de Catherine Bernard énonçait « née dans une famille protestante, cette nièce de Pierre et Thomas Corneille est cousine de Fontenelle. » Comme Bernard de Fontenelle était le neveu de Corneille et qu'on avait décidé que Catherine Bernard était sa cousine, allez hop, elle était aussi la nièce de Corneille. Comprendre, c'est une autrice mineure qui a eu la chance que ses liens de sang lui permettent de bénéficier d'une certaine fortune. Ainsi, sur le site de la BNF, où l'on présente Brutus, auteur du texte, Catherine Bernard et Bernard de Fontenelle. J'ai regardé attentivement cette édition et nulle part n'apparaît le nom de Fontenelle, dont on ne sait pas, par conséquent, ce qu'il fait dans la notice. Et sur sa fiche auteur BNF, on a enlevé Fontenelle, mais on a conservé Corneille. Romancière, dramaturge et poète, nièce de Corneille. Là encore, rien ne le prouve, ou même simplement le laisse penser. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. On aboutit à une situation absurde, où si l'on ne peut pas prouver que Bernard de Fontenelle n'a pas écrit Brutus, alors le doute est permis. Peu importe que l'on ait absolument aucune preuve de l'inverse, la précaution réside maintenant dans le fait de dire que Fontenelle, un homme, bien sûr, est son co-auteur. Quand Virginia Woolf essaie d'imaginer ce qu'aurait été la vie de Judith Shakespeare, elle la voit quittant sa famille, partant tenter sa chance à 17 ans dans la capitale, mais finissant mal, parce que n'importe quelle femme née au XVIe siècle et magnifiquement douée serait devenue folle, se serait tuée. Catherine Bernard est née au XVIIe siècle. Elle a quitté sa famille et partit tenter sa chance à Paris à 17 ans. Elle a écrit, elle a eu du succès. Elle a été reconnue de son vivant. C'est par la suite qu'elle a été dépossédée de ses œuvres et effacée de l'histoire littéraire. Au point que Virginia Woolf ne pouvait pas imaginer son existence. Et c'est bien dommage, parce que la romancière d'Orlando aurait certainement aimé le premier roman de Catherine Bernard, Frédéric de Sicile. Il compte l'histoire d'un couple royal qui, n'ayant qu'une fille, décide de la présenter toute sa vie comme un garçon. L'autrice qualifie ainsi Frédéric de « il » ou de « elle » en fonction de la personne qui se trouve en face. J'ai au moins un point commun avec Virginia Woolf. Jamais au cours de mes études littéraires, je n'ai croisé Catherine Bernard. Pourtant, je peux vous assurer qu'en cours, on a pris le temps d'étudier pas mal d'auteurs mineurs. Mais une femme qui aurait écrit des tragédies représentées sur la scène de la Comédie française, jamais. Si certains d'entre vous souhaitent développer un peu plus le thème de la femme dans la littérature, je vous conseille un livre très intéressant sur le sujet, appelé « Comment torpiller l'écriture des femmes ?» écrit par Johanna Russ. Mais pour aujourd'hui, nous étions sur le livre « Les grandes oubliées » de Titu Lecoq. Vous pouvez toujours réécouter cette émission sur le site de Radio G, rubrique « Voix au chapitre », et me retrouver la semaine prochaine pour un nouveau chapitre qui traitera de l'évolution du rôle de la femme à travers puis après la Première Guerre mondiale. En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission « Samedi Souvenir » de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end sur Radio G.